Mon époque, ma radio.
Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres.
19h30, 20h30, point G, comme Julia sur le Move.
Bonsoir et bienvenue dans Point G, l'émission qui appuie là où ça fait du bien. En fait, là où ça fait mal aussi, un peu, parfois, mais c'est pour votre bien. Alors, comme ça. Et la question qui gratte un peu ce soir, c'est « Je ne veux pas d'enfant, et alors ?» Bah oui, parce qu'on a beau avoir l'impression que la société bouge, il y a une chose qui ne change pas, c'est le choix de vie type. Vie épanouie égale couple plus enfant, et donc tous ceux qui, encore minoritaires, font le choix contraire, celui de ne pas avoir d'enfant, eh bien, ont encore mauvaise presse, suscitent au moins la question, l'interrogation, comme celle de Philippe, par exemple.
Bonjour, un petit message pour Point G concernant le sujet du jour. Donc dans notre entourage, les rares couples avec lesquels on a eu une discussion au sujet de leur choix de ne pas avoir d'enfants de façon tout à fait réfléchie et volontaire, ils nous ont amené à tirer la conclusion, mais toujours sur la base de ces deux ou trois couples, que ce choix était souvent motivé par une espèce d'égocentrisme assez exacerbé, et puis... souvent de la part de personnes qu'on jugeait, nous, en tant que responsables de famille très sérieux, un peu puéril. Puis aussi, malgré tout, le choix de ne pas avoir d'enfant, souvent, enfin en tout cas dans ces trop deux ou trois cas-là, est dicté par des considérations assez matérialistes, parce qu'un enfant ça coûte cher, un enfant c'est d'une contrainte, un enfant c'est chiant. Donc voilà, écoutez, alors malgré toute notre grande tolérance et notre ouverture d'esprit légendaire, on reste un petit peu sur cette idée que quand on fait le choix de ne pas avoir de gosse, c'est avant tout pour des questions de confort matériel et de, disons tout net, de un peu d'égoïsme. Mais encore une fois, c'est que sur la base de quelques exemples qui, je l'espère, sont des exemples sur lesquels on ne peut pas généraliser. Voilà, bisous à tous, bye.
Merci beaucoup Philippe pour votre message. J'espère que l'émission de ce soir va, si ce n'est vous faire changer d'avis, du moins vous apporter quelques billes supplémentaires. D'où la présence ici de Catherine Bergeret-Amselec. Bonsoir.
Bonsoir et bonne année à tous.
Mais oui, bonne année. On a le droit jusqu'à la fin du mois de janvier, donc on vous le dira tous les jours, puisque c'est comme ça. Bonne année
important.
À vous Catherine. Vous êtes psychanalyste, spécialiste des questions liées à la parentalité en général, à la maternité en particulier. Égoïsme, matérialisme, immaturité, c'est ce que disait Philippe, c'est ce qu'on entend souvent. Sur ceux qui font le choix de ne pas avoir d'enfants. Comme ça, pour planter le décor en début d'émission, vous en diriez quoi, vous, en quelques mots ?
Je dirais que les trois mots que vous avez cités sont des jugements de valeur et qu'il ne faut jamais juger. C'est ni bien ni mal. Chacun est libre et c'est un choix. Il faut respecter la singularité, le cheminement de chaque personne. Donc, et puis d'abord, c'est jamais définitif. On peut faire un choix un jour, à 20 ans, 30 ans, et à 40 ou 50, on change d'avis.
Et en même temps, à partir de 50, le choix, il commence à devenir définitif, du moins pour les
pour
femmes.
Pour une femme, voilà, oui. Exactement.
Là, ça commence à devenir
même
un
avant,
peu plus absolu.
Oui, là, parfois. Je disais, dans la vie, dans l'absolu, je parlais des hommes, puisque Philippe avait témoigné. Mais il est évident que pour une femme, l'horloge biologique est là, avec son gong menaçant.
Ça fait tic-tac.
Évidemment.
Ah, c'est pas un gong, ça.
Ah, Mathilde. Oui. Mathilde, puisque vous êtes là, vous voulez des enfants, vous, avec Pok, votre mafieux thaïlandais.
Oh, au moins une bonne douzaine, oui. Je pense qu'on a un bel avenir.
Je compte sur vous. Alors, si vous êtes là, c'est que pour une fois, vous avez travaillé.
Oui. Hein,
et que vous allez nous donner des nouvelles du sexe. Mm-hmm. Un petit titre à la une, je sais pas, un teasing, un mot, une mise en bouche.
Comment trouver enfin le prince charmant ?
Ah, très bien.
Les révélations vont être là.
Pour une fois, vous m'intéressez. Le JT complet de la planète sexe, c'est à 20h tout pile. D'ici là, avant, pendant, après, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors n'hésitez pas, appelez-nous en direct au 01 45 24 20 20. Écrivez-nous sur notre page Facebook Point G comme Julia ou bien sur notre compte Twitter @.Julia.
Point G comme Julia, parce que ça s'écrit avec un G.
Et nous ouvrons ce Point G avec Sarah. Bonsoir Sarah.
Bonsoir.
Alors bonsoir. Vous avez 30 ans, vous nous appelez de Toulouse, vous ne voulez pas d'enfants. Et ce que vous dites, c'est qu'en fait le plus compliqué à vivre, c'est surtout le regard des autres, c'est ça ?
Oui, autant finalement beaucoup plus les collègues, les amis que finalement la famille. Parce que je me rends compte qu'au final, quand j'en parle aux plus anciens, à ma mère en particulier, elle le conçoit, elle le comprend, elle se dit pourquoi pas. Mmh. Les amis, c'est beaucoup plus compliqué, c'est de l'incompréhension. généralement, quand je leur dis, ben non, moi, ça, je ne ressens pas le besoin et je ne me vois pas forcément avec des enfants, on me dit tout de suite, ben oui, mais t'inquiète pas, ça viendra. Je leur dis, oui, mais non, enfin, peut-être pas, mais peut-être que oui, je ne sais pas, effectivement, mais moi, ça me choque pas, finalement, de dire que je me verrais sans enfants. Eux, c'est pour eux, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'inconcevable, quoi.
Pourquoi pour les autres, ouais. Catherine Bergeron-Amsalek, c'est si compliqué?
Oui, c'est vrai que très stéréotypement, on dit aux gens, quand est-ce que tu nous fais un enfant?
Oui, c'est vrai.
Comme si c'était pour eux. C'est-à-dire que je crois qu'au fond, c'est la peur du vide. C'est-à-dire qu'il faut remplir. Il faut remplir et il faut être comme tout le monde. Donc les gens ont tendance à se calquer sur des stéréotypes, d'où ce « quand est-ce que tu nous fais un enfant ?» et de mettre une pression, alors qu'un désir d'enfant, ça mûrit. On peut très bien ne pas avoir du tout envie d'un enfant à 30 ans, parce qu'on n'a pas trouvé le partenaire idéal, ou parce qu'on se sent pas prêt dans sa tête, on a des comptes à régler avec ses parents, par exemple, et puis tout à coup, on va avoir un très fort désir. Ça mûrit, c'est très ambivalent, comme... le désir d'enfant. Et d'ailleurs, l'enfant décidé n'est pas l'enfant désiré. Donc derrière le...
C'est-à-dire l'enfant décidé n'est pas l'enfant désiré.
Derrière le « je ne veux pas d'enfant », ça c'est l'enfant de la volonté, donc consciemment, se cache parfois un gros nœud qu'on démêle lors d'une thérapie, d'une escale chez un analyste, par exemple, pas que, hein, ça peut être dans la vie.
Ça peut être aussi avec le temps, avec les années, avec les rencontres.
Exactement. Ouais. Et tout d'un coup, on se dit, bon, bah, c'est ambivalent, j'ai peur d'un tas de choses. Comme disait Philippe, ça coûte cher, mais ça, c'est une chose. Mais j'ai peur qu'il change mon corps, ma vie, mon couple. Et tout à coup, le désir mûrissant, c'est dans le ventre que ça se situe, c'est le désir. Et on le voit, vous savez comment on le voit, quand les gens prennent la pilule, pourtant ils ne veulent pas d'enfants, et il y a tout à coup l'oubli de pilule, inconsciemment, hop,
ah, c'est bizarre,
et
la
puis
plaquette.
On peut le choisir pour d'autres raisons de ne pas vouloir d'enfants.
Alors, Sarah, justement, la question que j'avais envie de vous poser, c'est vous, pourquoi est-ce que vous n'en voulez pas?
Parce que moi, à l'heure actuelle, j'ai pas l'impression d'avoir profité de ma vie. C'est-à-dire que j'ai énormément d'activités, il y a beaucoup de choses que je voudrais faire, et j'ai déjà l'impression de ne pas avoir assez de temps maintenant. Je me sentirais frustrée en fait d'avoir un enfant là maintenant parce que je pourrais pas pratiquer toutes mes activités. Et c'est vrai que dans le futur, je me dis bon, ça veut dire qu'à un moment il faudra arrêter certaines choses. Donc moi j'étais d'accord sur le fait finalement qu'on disait que les gens qui ne veulent pas d'enfants sont égoïstes dans le sens où moi je le dis moi-même. Oui, c'est égoïste dans le sens où je veux du temps pour moi, quoi. Du temps pour moi, pour mon couple, pour
des... Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Vous êtes en couple?
Oui, ouais, ouais.
Et votre ami, lui?
Lui, il a eu déjà un garçon.
Ouais.
Alors quand on s'est rencontrés, bah, c'est vrai qu'il y en était question. Mais moi, j'ai l'impression que c'est toujours dans les débuts des couples, c'est très enflammé. On veut des enfants parce qu'on a une sorte d'hormones qui bouillonnent et qui nous poussent en fait à créer des choses concrètes. Et j'ai l'impression qu'après, en construisant une vie de couple sérieusement bâtie, finalement, on n'a pas nécessairement besoin de faire un enfant ensemble pour avoir l'impression d'être ensemble et d'avoir une relation stable et durable. Et j'ai l'impression, en tout cas, qu'on a dépassé ce stade-là et que... Il est aussi un petit peu plus âgé.
Sarah, vous avez dit à plusieurs reprises, vous avez dit besoin. Catherine, c'est un besoin ou une envie de faire un enfant?
Ni l'un ni l'autre. Je crois qu'il y a plusieurs facettes. Ça peut être envie de transmettre, envie de laisser quelque chose derrière soi. Ça peut être avoir envie d'être enceinte, ce qui n'est pas la même chose que d'avoir envie d'élever un enfant qui grandit, devient parent et vieillit. Le besoin, c'est pas un besoin, en fait. C'est un désir. Il n'y a pas, pour être complet, on n'a pas forcément besoin d'être père ou d'être mère. Disons qu'on peut faire des bébés symboliques quand on fait de la créativité, quand on crée quelque chose. D'ailleurs, les gens qui n'ont pas d'enfants appellent souvent leur œuvre leur bébé.
Oui.
Et moi, par exemple, mes livres, là, comme j'ai 60 ans, je n'en aurai plus, je les appelle mes bébés en papier. Vous voyez, comme quoi il y a cette impulsion de créer quelque chose qui sort de soi, qui sort du ventre. C'est une métaphore.
C'est-à-dire, le besoin, il est là. Le besoin, il est dans le fait de créer quelque chose et de laisser une trace, mais quelque chose.
C'est juste. Pour s'accomplir, j'ai l'impression qu'un être humain a besoin d'investir son énergie vitale, la libido, comme on dit, dans quelque chose. Mais ça peut être faire de très belle tarte aux pommes, ça peut être un tableau, ça peut être une émission de radio, chacun, ça peut être tout simplement ne rien faire, rêver, être. Et c'est vrai que parfois, on a envie de transmettre, de donner la vie, mais ce n'est pas, on peut très bien savourer son couple, et puis il faut dire quand même que l'enfant ne cimente pas le couple.
Là, ah non hein,
pardon. Au contraire, hein, je vois que vous êtes pleine d'expérience. Hein, moi, vous savez,
c'est vrai, d'enthousiasme. Hein,
mais c'est vrai que je dis toujours que le trouble, ouais, c'est une petite troupe à trois pleine de turbulences émotionnelles. C'est fini l'érotisme, on ne peut plus faire l'amour sans prévenir à quelle heure, on ne peut plus aller au cinéma tout de suite. Il faut prévoir un mode de garde, s'organiser, il y a des contraintes, c'est vrai.
C'est ces contraintes-là dont vous n'avez pas envie aussi, Sarah ?
Ouais, complètement. C'est vrai que j'ai plutôt envie d'être... Je suis assez indépendante et j'ai vraiment besoin d'être libre et de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Donc ça, c'est peut-être aussi psychologiquement à traiter. Mais c'est vrai que j'ai besoin de cette liberté-là et ça fait partie effectivement de ce qui me pose souci dans le fait d'avoir des enfants. Après, je reviens sur ce que disait votre invitée.
Catherine.
Ouais. Bon, on a eu donc des amis qui ont accouché très récemment et la première, la plus proche, quand elle était enceinte, c'est vrai que ça m'a déclenché une très grosse envie d'être enceinte.
Ouais.
Mais raisonner tout de suite en me disant non, mais attends. Être enceinte, ça doit être super, mais par contre, après avoir l'enfant au quotidien... Ça,
mais moi, j'ai un conseil, vous l'abandonnez. Après, vous le faites, et puis vous l'abandonnez.
C'est cela, oui.
La grossesse, ça m'a vraiment attirée. Ah oui, vraiment. Ouais. Mais voilà, c'est l'enfant après...
Parmi mes patientes, j'ai le phénomène inverse. J'ai des femmes qui veulent un enfant, mais qui voudraient l'avoir tout fabriqué.
Ah, alors moi, j'ai une question à vous poser, Catherine. Est-ce qu'on peut... Ah, mais oui. Mais alors, moi, vous m'intéressez beaucoup. On peut se parler hors antenne, Sarah, c'est possible ou pas?
Dans quelle émission suis-je tombée? Vous faites trafic d'enfants en coulisses,
c'est ça? Eh ben oui. Quand c'est
organisé
pas
par des réseaux mafieux.
D'accord. Grâce à POC. Quand c'est pas le trafic d'organes, c'est le trafic d'enfants.
Oui.
Enfin, tout peut arriver dans
le point G. Se cache beaucoup de choses.
Oula, m'en parlez pas. Merci infiniment, Sarah.
Mais merci à vous
d'être intervenu. À très bientôt.
Au revoir.
Et tout de suite, nous avons Magali en ligne. Bonsoir, Magali.
Bonsoir, Julia. Bonsoir.
Alors, vous avez 40 ans, vous nous appelez de Lille. Et vous, en fait, vous ne voulez pas d'enfant parce qu'en fait, en quelque sorte, vous en avez déjà eu un, ou une plus exactement.
Oui, j'ai eu cette malchance d'avoir une maman très fragile psychologiquement, qui a fait que on a eu une relation mère-fille inversée. Elle est tombée malade. Mon père était plutôt aux abonnés absents à ce moment-là. Et à l'âge de 12 ans, je suis devenue la mère de ma mère, donc qui était sous chimiothérapie, qui a fait une grave dépression. Et la relation s'est inversée et ça s'est poursuivi après à l'âge de 16 ans quand mon père est parti, au point que de toute façon tout ce que je faisais c'était jamais assez bien, l'émancipation dont je rêvais à l'âge de 16 ans c'était pas bien non plus parce que j'allais laisser ma mère, etc. Donc je me suis retrouvée à devoir endosser un rôle beaucoup trop précocement et puis complètement biaisé, quoi, devenir la mère de sa propre mère, ça fait déjà qu'on perd soi-même sa mère et donc voilà, j'ai eu cette expérience-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, même si j'ai travaillé sur moi et que je porte un regard un peu plus objectif, mais néanmoins, pour moi, avoir un enfant, c'est comme si on se mettait un boulet au pied. Très dur ce que je dis, mais c'est vraiment comme ça que je le vis et que je pense que je le vivrai, en tout cas que je l'envisage. Et j'ai été mariée, je suis divorcée, j'ai fait une autre tentative après qui n'a pas fonctionné. Ça m'a jamais vraiment chatouillée viscéralement, comme disait l'auditrice précédente,
Sarah,
en voyant d'autres, des amis enceintes, etc. Ça a pu me chatouiller à certains moments. Mais ça n'a jamais été un besoin viscéral. Donc par rapport à l'auditeur dont vous avez passé le témoignage,
Philippe,
moi je ne suis pas du tout d'accord à dire que tous les gens qui ne veulent pas d'enfants sont forcément égoïstes,
alors,
égocentrés.
À la décharge de Philippe, en fait, c'est un habitué de la page Facebook de Point G et j'ai trouvé qu'il avait le courage de dire ce que beaucoup de gens pensent au fond d'eux-mêmes et il employait la précaution d'usage de dire voilà, moi je parle des trois couples qui m'entourent, peut-être que tout le monde n'est pas comme ça. Hein.
Oui, tout à fait.
Je voulais vous poser une question, moi, Magali, excusez-moi.
Oui,
votre maman a-t-elle été sauvée ou est-ce que la maladie l'a emportée? Quel âge vous aviez?
Non, ma maman est toujours, toujours en vie.
Ça, c'est formidable.
Elle est très précocement en maison de retraite.
Vous l'avez, en fait, aidée beaucoup, on peut dire presque sauvée.
J'ai essayé de la sauver, oui, mais on ne peut jamais faire le bonheur à la place des autres. Donc ça, je l'ai appris beaucoup plus tard. Et voilà, quoi. Donc c'est vrai que c'est parfois des relations délétères avec ses propres parents qui font que, plus tard, on ne nourrit pas l'envie d'avoir soi-même un enfant, quoi.
En tout cas, moi, ce qui me frappe, Magali, c'est que vous dites que vous avez fait un travail sur vous-même. Ce qui me frappe, c'est que vous posez très justement les choses et vous les formulez, vous mettez des mots dessus, ce qui est déjà une première étape, non, Catherine?
Bien sûr, mais on sent à travers votre discours qu'il y aura peut-être d'autres étapes à franchir, parce que quelque part, en fait, l'intégration de ce que vous avez vécu, qui est très fort, moi je trouve que vous avez eu certainement beaucoup de courage d'accompagner votre mère, mais je crois qu'il y a eu peut-être une partie de votre enfance, voire de votre adolescence, qui a été mise, si vous voulez, en stand-by, quoi, zappée, comme on dit.
Je n'ai pas eu d'adolescence, ça c'est
voilà, et peut-être que, peut-être, si j'ose dire, sans vous influencer, qu'une escale encore, pour une autre tranche d'analyse, pourrait vous aider à faire mûrir quelque chose. Il ne faut jamais dire jamais ou toujours. Je crois qu'il faut laisser des portes ouvertes. Et que 40 ans, c'est encore très jeune, et il y a encore une belle route pour changer d'avis. Parce que, vous voyez, quand on a eu un deuil périnatal, qu'on a perdu un enfant, par exemple, c'est des choses très très lourdes. Après, parfois, on ne veut plus d'enfants. Et puis, on se raconte une histoire très rationnelle qui tient debout pour justifier ce choix. Et puis, quand la ménopause arrive, vous savez, là, on peut très bien se dire, là, c'est plus possible si j'avais su. Donc, c'est pas mal, après coup, de refaire une petite escale chez un analyste, soit le même, pourquoi pas retourner le voir, soit un autre. Je sais pas, d'ailleurs, si le travail sur soi dont vous parlez était analytique, mais je voudrais pas dire qu'il faut fermer la porte. Je me dis qu'il faut laisser toujours une porte ouverte. Voilà. Parce qu'après, on regrette. Il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets. Mais il faut expérimenter la chose et ne pas juger. Voilà.
Magali, vous vouliez répondre à Catherine Bergeret-Hamsalek là-dessus?
Moi en tout cas, là justement, étant donné que la quarantaine arrive au mois de mars, là, de manière franche, je réfléchis par rapport à ce sujet, mais de toute façon, aujourd'hui, je vis avec un homme qui a déjà une fille, qui ne souhaite plus d'enfants. Aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre dans justement une relation harmonieuse, enfin, pour la première fois de ma vie. Il y a sur ce plan-là, je dirais que éventuellement, on aurait pu ne pas s'entendre, mais de toute façon, ça n'est pas quelque chose qui me fait envisager de faire cesser la relation pour trouver quelqu'un qui pourrait éventuellement nourrir le projet d'avoir un enfant avec moi. Donc je pense que déjà trouver un équilibre dans une relation quand on fait le choix de vivre en relation et non pas de vivre seul, c'est déjà quelque chose qui est rare et précieux. Donc je dirais une chose à la fois. En effet, peut-être que les portes qui sont fermées aujourd'hui ne le resteront pas de manière définitive. Les choses doivent aussi mûrir. Ça ne fait qu'un peu plus de 2 ans qu'on est ensemble. Mais à voir, en effet. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas quelque chose à l'aube de la quarantaine qui me fait peur que de dire je n'aurai pas d'enfant et voilà.
Après, c'est de toute façon, effectivement, comme vous le dites, étape par étape. Voilà. Oui, et si vous si vous avez une vie de couple heureuse et harmonieuse, et eh ben figurez-vous qu'il y en a autour de cette table qui aimeraient bien en dire autant.
Non, mais parce que Pomme est en Thaïlande,
c'est pour ça. C'est dit donc, mais parlez pour
vous. Non, c'est parce que parler Poc est loin.
Non, mais Poc est loin, Poc est resté en Thaïlande, c'est pour ça. Merci infiniment, Magali, pour votre témoignage. À très bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir. On écoute Miles Kane sur le Move. Biscayne, The Responsible sur le mauvais dent. Point G. Point G qui s'interroge d'ailleurs sur la responsabilité d'être parent ou pas. On revient juste après ça.
Mon époque, le Move, ma radio.
Cet hiver à Brest, retrouvez Astropolis avec le Move, le festival pionnier des musiques électroniques en France. Pour son édition hivernale, Astropolis se décline en soirées, projections, rencontres, ateliers et événements au cachet atypique en journée. Avec Aufgang, Kashmir, Brodinski, Scientist, Acid Arab, Andy C, The Driver, Electric Rescue et bien d'autres. Astropolis l'hiver, c'est du 14 au 25 janvier à Brest. Plus d'infos sur astropolis.org et lemove.fr.
Le Move. Annecy 99.4.
À Valence sur 100.7.
Et Santiago.
Lemove.fr.
Nous sommes toujours avec Catherine Bergeron-Amselec dans Point G, comme Julia avec Mathilde Terrier également, pour parler ce soir du désir d'enfant, enfin surtout, de ceux et celles qui ne veulent pas d'enfant. Et parmi elles, eh bien, il y a Cindy. Bonsoir Cindy.
Bonsoir.
Vous avez 25 ans, vous nous appelez de Toulouse. Et alors, vous ne voulez pas d'enfant parce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, à l'époque à laquelle on vit, c'est pas tout à fait responsable de faire un enfant. C'est ça ?
Voilà, tout à fait. C'est ça.
Alors dites-nous pourquoi.
Donc après, moi, c'est aussi un peu par égoïsme, dans le sens où, comme Sarah le disait tout à l'heure, c'est une vie qui change. Mais aussi, si on y rajoute à ça, le fait que les enfants, maintenant, sont, je trouve, plus difficiles à vivre au quotidien. J'ai l'impression que c'est même plus une question d'éducation, maintenant. C'est un ensemble de groupes, quand ils commencent à évoluer dans leur vie, qui font que ça devient très compliqué, et autant financièrement qu'avec l'éducation. Et,
vous avez l'impression que vous dites que c'est trop compliqué pour vous, que vous n'y arriveriez pas, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Mais vous n'avez que 25 ans ?
Eh oui.
Donc vous avez le temps.
Mais qu'est-ce qui... Oui, c'est sûr, mais je vois, moi, par rapport à des amis qui ont des enfants, ils ne s'en sortent pas du tout. C'est vraiment prenant, et la peur aussi de ne pas leur donner la vie qu'on aurait voulu qu'ils aient aussi.
Alors ce qu'on peut entendre, Catherine Bergeron-Amselec, dans ce que dit Cindy, c'est qu'il y a une telle pression aujourd'hui sur comment on doit faire pour élever un enfant. Il y a tellement des guides pour avoir l'enfant parfait.
Des guides, de conseils aux parents. Mais il y a aussi une bonne chose là-dedans, c'est le soutien à la parentalité, malgré tout. Il y a eu beaucoup de choses de faites dans les PMI, l'accueil pour les nouveaux parents, les maisons des parents, les maisons vertes, Françoise Dolto qui avait créé
Bien sûr, mais c'est vrai que l'enfant, c'est devenu aussi un facteur de réussite.
Il y a beaucoup de choses de faites. Bon, aujourd'hui, c'est un peu l'enfant accessoire. On voit des people avec un sac à main à la mode, un petit chien, un portable et un enfant sur les hanches. Bon, c'est vrai ça, mais il ne faut pas tout mélanger. Je pense qu'aujourd'hui, les enfants, ils ne sont pas ni plus ni moins turbulents. Il y a une évolution de la société. Il y a eu peut-être une petite crise de l'autorité avec des enfants qu'on laisse tout faire, et avec le fait qu'on en revient maintenant au fait qu'il faut quand même que le père entre en scène, cadre et signifie la loi. Mais je crois que peut-être que vous êtes renvoyé, Zindi, à des choses de votre propre éducation, de votre propre histoire qui vous font un petit peu peur, et qu'il faut faire très attention au jugement définitif. Les enfants d'aujourd'hui sont pas plus terribles. Et puis ça dépend dans quel milieu social. Ça dépend si c'est à la campagne, à la mer ou en ville. Ça dépend si les gens sont dans un milieu socio-culturel marginal, artistique ou un milieu très simple. Donc il faut pas généraliser. Je pense que chaque enfant est différent, et que si on l'éduque et qu'il a des parents équilibrés et qu'il l'aime, bah, l'enfant il grandit et puis qu'il a, voilà, et que tout va bien.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Cindy ?
Non.
Eh ben, merci en tout cas d'avoir témoigné dans Point G. Merci beaucoup. À très bientôt.
Au revoir.
Alors, Catherine Bergeron-Amselec, j'avais envie de vous donner juste ce chiffre d'un sondage fait par l'INSEE en 2011. 63% des Français pensent qu'on ne peut pas avoir de vie épanouie sans enfant.
Bon.
Les hommes pensent que c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Les femmes, elles, pensent que elles sont 50% à penser que pour un homme, c'est possible. Mais que par contre, pour les femmes, c'est pas possible du tout. C'est-à-dire qu'on en est encore là. Hein.
Ouais, c'est-à-dire que les femmes ont plus de désir d'enfant dans votre sondage que les hommes.
Ouais. 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 Mais en tout cas, tout le monde pense, les deux tiers des Français pensent que, effectivement, on ne peut pas avoir de vie épanouie sans enfant. Bah,
écoutez, on peut aussi avoir une vie pas épanouie avec des enfants, cela dit. Hein.
Ça.
Je pense qu'il n'y a pas de règle générale. En fait, je pense qu'il faut oser inventer son propre style de vie. C'est pas la panacée universelle du bonheur, mais il est vrai que c'est évident que c'est extrêmement émouvant, et je dirais, oui, émouvant, j'allais dire joyeux,
très souvent, mais en tout cas très émouvant de voir un enfant grandir, un enfant qu'on a fait avec quelqu'un qu'on aime. Bon, c'est vrai, mais cela dit, il faut s'adapter aux circonstances. Si on a un homme qui n'a pas de désir d'enfant, comme c'était le cas tout à l'heure, je crois que c'était pour Magali. Voilà. Je crois que c'est sage à ce moment-là de respecter le désir de cet homme, parce qu'un désir d'enfant d'un homme, c'est il le porte dans sa tête. Elle le porte certes dans sa tête, elle en a une, mais elle le porte aussi dans son corps. Donc c'est beaucoup plus charnel. Mmh. Et une femme, elle a besoin de savoir que ce que sa mère lui a transmis, ovaire, vagin, tout ça, ça fonctionne parfaitement. Ouais. Or, un enfant, ça se porte dans l'utérus et ça traverse par les voies génitales. Et c'est très important pour une femme de vérifier que tout va bien.
Que tout
est en état de marche. C'est déjà un des pans du désir d'enfant. Puis après, c'est désirer un enfant de cet homme-là et pas d'un autre. Bon, voilà. Ouais. Alors là, c'est encore une autre étape de maturation. Et je vais vous dire... moi, je travaille sur les étapes existentielles clés de la vie qui font grandir. La maternalité, c'est le temps de la naissance d'une mère. Mais cette maternalité, elle démarre dès le désir d'enfant, même le désir non réalisé. C'est pour dire combien il y a comme une percée, comme une fleur qui pousse et qui va éclore. Ce désir peut être extrêmement ambivalent. Il y a plein de trucs qu'on n'ose pas dire. Par exemple, ça va être un petit alien qui va me dévorer le ventre. Ça va être un môme qui va être embêtant, qu'il va falloir que je me lève, que je ne pourrai plus rien faire. Ce sont des angoisses archaïques très profondes de perte d'intégrité corporelle, de perdre sa vie, son corps, son couple. Mais si on arrive à dépasser tout ça, il y a toute une part qui s'ouvre et on arrive à voir que qu'est-ce que la vie après tout. Parce que c'est quoi la vie? C'est ça. Est-ce que c'est avoir beaucoup de choses ou est-ce que c'est être? Si on est du côté de l'être...
Et en même temps, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut être aussi du côté de l'être sans avoir d'enfant.
On peut être
en
du
créant
côté de l'être,
autre chose.
Soit en soi... sans avoir d'enfant. Je crois qu'il faut suivre au pas à pas ce qui s'ouvre devant nous, sans se donner de règles générales. Et surtout,
et
se moquer de ce que disent les autres.
Et définitive, bien sûr.
Les autres, c'est la société, mais ça, ça n'a pas de sens, en fait.
Alors, justement, on va rejoindre tout de suite Charlotte, qui est en ligne avec nous ce soir. Bonsoir, Charlotte.
Bonsoir, Julia.
Alors, vous avez 47 ans, vous nous appelez de Paris, et vous dites, pour forcer le trait, bien sûr, mais vous dites, quand on aime ses enfants, on ne les fait pas.
Oui.
Mais encore.
je n'ai pas d'enfant. Je n'ai jamais eu de désir. En tout cas, je me suis jamais conçue en tant que mère. Mmh. Quand ça aurait pu être le moment, je faisais mes études et j'étais plus prise par ça que par la maternité et puis par la fondation d'une famille. De toute façon, à cette époque-là, je n'étais pas en couple. Ouais. Je l'ai été, mais l'homme avec qui j'étais n'avait pas de désir d'enfant. Donc, même si moi j'avais un semblant de désir, j'ai respecté, comme l'a dit vous, votre
Catherine Bergeron,
votre invité.
Oui.
Oui, effectivement, j'ai privilégié mon couple à mon désir d'enfant. Toutefois, il y en avait eu un. Et là, pour y avoir réfléchi assez profondément et assez assez longtemps, c'est tripal. Je ne veux pas d'enfant et de toute façon, maintenant, c'est un peu trop tard.
Trop tard, non, mais qu'est-ce que vous dites quand vous dites...
À 47 ans...
Non, c'est pas trop tard, il y a des maternités tardives. Je parle toujours du petit enfant qui se faufile avant la fermeture des portes.
Vous savez, on sent... La fermeture des portes, elle est pas très loin.
Ah, vous pensez que vous êtes en périménopause?
Voilà, oui.
Mm-hmm. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir eu d'enfant?
Non, parce que j'ai fait autre chose. J'ai fait de longues études.
Des études de quoi?
J'ai fait des études d'histoire de l'art couronnées par un doctorat.
Bien, c'est un beau parcours, ça. Je comprends, voilà. Avec tout le travail que ça demande, c'est pas facile d'élever un bébé en même temps et même un enfant.
Voilà, et puis, par contre, quand je dis ça, quand je dis que je n'ai pas envie d'enfant, alors, tout de suite, on me regarde comme quelqu'un d'anormal. C'est pas possible de pas vouloir d'enfant, c'est trop beau, c'est tellement bien, on va être fusionnel et tout. Même les jeunes femmes qui m'entourent, qui ont eu des enfants ou qui sont enceintes actuellement, ça ne me donne pas envie.
Ben oui. Quand vous dites voilà. C'est tripal tout à l'heure, vous vouliez dire que d'une façon viscérale, il y a quoi?
Je ne me conçois pas mère.
Ouais, mais qu'est-ce qui nourrit ça? Vous aviez bien dit que c'était viscéral, tripal.
Oui,
donc.
Oui.
C'est quoi? C'est du dégoût, c'est de la peur, c'est quel sentiment?
Non, c'est ni dégoût ni peur. Peur peut-être, parce que peur de pas être à la hauteur, peur de j'ai pas tout dénoué avec moi-même, donc voilà. Ça serait peut-être prendre en charge quelqu'un d'autre, ça serait encore plus compliqué.
Charlotte, je vais vous faire vivre une expérience assez hallucinante. Je vais lancer un temporaire, ça va vous couper en deux votre phrase, mais vous allez revenir juste après, d'accord ?
D'accord.
Vous êtes prête ? On y va.
Mon époque,
ma radio, le Move.
Il est 21h01 sur le Move. Et nous retrouvons donc Charlotte, notre auditrice de Paris, qui nous appelle dans ce point G intitulé « Je ne veux pas d'enfant ». Et alors que nous menons avec la psychanalyste Catherine Bergeret-Amselec, auteure entre autres du « Mystère des mers » aux éditions... Des mers, pas des mers, pas des océans, hein, des mers...
C'est pas IRS ?
Non.
Non,
c'est pas ça non plus. Des mers M-E-R-E-S aux éditions... Des clés de Brouwer. Et donc nous retrouvons Charlotte. Et Charlotte, vous en étiez au moment où vous disiez qu'effectivement vous sentiez qu'il y avait quelque chose d'un peu trop noué en vous, que vous ne vous sentiez pas capable d'être à la hauteur de ça, de voilà. Ça étant l'arrivée d'un enfant.
Je pense qu'il y a plein de choses. J'ai encore plein de nœuds encore à 47 ans à dénouer entre ma mère, mon père, ma famille, et tout ça. Moi personnellement, donc voilà, il y a trop de choses à régler encore pour laisser la place ou charge, mais bon, c'est peut-être pas le bon mot, mais cette charge d'enfant pour accueillir un enfant.
Catherine, oui. Ça me fait penser à un message d'une auditrice. Alors, on a énormément d'appels en direct ce soir, comme quoi c'est un sujet qui délie les langues, et c'est tant mieux. On a eu beaucoup de messages sur le répondeur de Point G qu'on ne pourra pas passer, et d'avance toutes mes excuses aux auditeurs de Point G. Mais effectivement, il y avait une auditrice, Catherine, qui disait un petit peu ce que nous dit Charlotte, c'est-à-dire, moi j'ai besoin de régler mes nœuds, voilà, et mes traumas ça, avec sûr. Mes parents avant de pouvoir être mère.
C'est très important. D'ailleurs, c'est ça, quand je parle du désir d'enfant qui mûrit, c'est exactement ce nœud-là qu'il faut dénouer. Et quelquefois, on le dénoue tard, des fois trop tard, mais quelque part, je trouve ça, alors, pour le coup, très raisonnable et respectable de ne pas, de dire je ne veux pas d'enfant parce que je sens que je ne suis pas prête, parce que quelque part, je parle souvent d'infertilité garde-fou, c'est-à-dire de femmes qui se mettent en situation, qui ne peuvent pas faire de bébé, elles n'y arrivent pas, hein, elles font l'amour, ça vient pas, même avec un protocole d'assistance médicale à la procréation, elles sentent intuitivement qu'elles se mettraient en péril. Et donc cette stérilité garde-fou, elle est protectrice, elle est à respecter. Bon. Et je pense que si on sent que c'est trop fort, que ça serait de l'ordre du trop, eh bien, en effet, il ne faut pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'on va évidemment à la catastrophe, soit pour soi-même, soit pour l'enfant. Donc, ça peut être un choix tout à fait respectable. Et si vous dénouez la chose, Charlotte, peut-être que vous vous apercevrez que vous avez bien fait. Et comme vous avez fait Histoire de l'art, vous ferez peut-être quelque chose de très beau. Ça peut être une sculpture, un tableau, enseigner, je ne sais pas. Et ça sera votre façon à vous de vous accomplir. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que quand on a un enfant, et j'aime les enfants, j'ai un fils et j'en suis d'ailleurs très fière, mais je peux quand même dire que quand on n'a pas d'enfant, on fait beaucoup, beaucoup de choses qu'on n'aurait jamais fait, évidemment, quand on est mère ou père. Parce que quand on est parent, on en prend pour la vie. Il faut dire une chose, il y a toujours un souci, même avec un enfant adulte. Il y a quelque chose qui est dans la tête, qui est là. Alors, c'est vrai que c'est un plaisir, mais c'est vrai que quand on veut faire vraiment quelque chose pour soi, ça peut être une œuvre, ça peut être vivre, rêver. Quand on est seul, et c'est très mal vu dans la société de dire « je suis bien tout seul et je ne veux pas d'enfant », je crois qu'il faut aussi savoir écouter son désir. Voilà.
Charlotte, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, pour la réalisation, j'ai de multiples autres activités. Entre autres, je fais de la formation d'adulte en plus de mon travail. Donc, je suis archiviste municipale. Donc, voilà, je fais de la formation et un tas d'autres choses. Donc, la réalisation, elle n'est pas, pour moi, elle passe pas forcément par un enfant. Elle passe par plein d'autres choses.
Mmh. Comme quoi, c'est possible et on est ravis de pouvoir le dire ce soir dans Point G. Charlotte, je ne sais pas, c'est votre baptême du feu en
oui,
direct.
C'est mon baptême du feu.
Donc, bravo. En revanche, vous nous suivez sur Facebook depuis longtemps, je crois. Donc, vous savez oui. que normalement, à cette heure-là, on va dire à 5 minutes près, c'est les nouvelles du sexe de Mathilde Terrier parce qu'on est mercredi.
Je l'adore.
Et ben nous aussi, merci. On l'adore. Donc, place aux nouvelles du sexe de Mathilde. Un grand merci à vous, Charlotte, et à
merci.
Très bientôt.
Au revoir, Charlotte. Et bonne année à toute l'équipe.
Merci. Mais merci, bonne année à vous.
Au revoir.
Des nouvelles du sexe, des nouvelles du sexe. Tintin. Tintin.
D'abord, pour le goût, il y a des noisettes, sélectionnées pour leur qualité.
Et pour ouvrir ce breaking news, ce flash info of the sex of the world et rester sur le thème du jour, on commence par notre page Science et Vie. Vous ne voulez pas de marmots ? Un conseil surtout, ne matez pas de porno avec votre mec. Non pas que ça puisse lui donner des idées, ça non. Les scénarios sont bien trop nazes, mais parce que ça lui filerait un sperme de maillot jaune. Oui, eh oui. Selon des scientifiques australiens, visionner des scènes X augmente la qualité et la quantité du liquide séminal. Et pourquoi il s'améliore ? Parce que les mecs seraient jaloux comme des poux. Oui, oui. Selon les chercheurs, le simple fait de voir d'autres hommes avec des femmes crée la compétition du sperme. En clair, mater un autre homme féconder une femme accroît le rendement sexuel de celui qui regarde, bien sûr. Sinon, comment ça se passe au niveau de la libido ? Je te jure, chérie, si je m'inflige blanche fesse et les sept mains, c'est pas pour moi, c'est pour notre descendance.
Évidemment.
On passe à présent à la femme de la semaine, elle s'appelle Liz, elle est américaine et le moins qu'on puisse dire c'est que Lizou, elle a plutôt mal démarré 2014 puisque son premier vœu a été demandé à son chéri de l'amener à l'hosto. Et pourquoi elle a dû filer à l'hôpital en urgence ?
Mais je sais pas.
Crise de foie, allergie au saumon, entorse au ski ?
Ski, ski.
Catherine ?
J'en ai pas idée, qu'est-ce qui lui est arrivé
elle,
à cette dame ?
Elle était tout simplement bloquée en plein orgasme.
Oh, oh quel
non,
dommage.
On fait chier, tiens.
Comment
ça annonce
chiant,
pas une année pour
terrible.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui.
Après une partie de jambes en l'air avec Eric, son cher et tendre, Liz est victime d'un orgasme interminable. Alors, le plaisir ne cessant pas, elle tente alors différentes astuces pour faire baisser la pression. Pendant une heure, j'ai tout fait pour que ça se calme, confie-t-elle dans l'émission américaine TLC. J'ai sautillé, j'ai bu du vin. Bah oui, quelle bonne idée. Se prendre une caisse, c'est bien connu, rien de tel pour avoir les idées claires. Enfin bref, de toute façon, ça ne marche pas. Du coup, son mec l'amène aux urgences, où les médecins arrivent à mettre un terme à son calvaire au bout de 3 heures seulement.
Oh là.
C'est pas bientôt fini, non ? Il y aura le bol à la fin de prendre son pied. Il y en a qui aimeraient bien être peinard, bordel.
Ah, il m'a manqué ce bordel.
Vu qu'on parle romantisme, on reste dans le domaine avec cette révélation pour nous les femmes.
Oui ?
Oui, pour vous, Julia.
Oui ?
Comment trouver le prince charmant ?
Ah, pardon.
Selon un sondage britannique réalisé auprès de 2000 anglaises qui auraient trouvé, je cite, l'amour le vrai, parce que c'est vrai qu'en matière de sentiments, tout le monde le sait, on est toujours sûr à 100%, pour trouver l'âme sœur, il faudrait avoir vécu cette relation amoureuse plus ou moins sérieuse. Non, Julia, les one-shots, ça ne marche pas. Les aventures d'une nuit, c'est seulement 4. Quant aux partenaires sexuels, ils sont limités à 10. Eh bien, vous n'êtes pas dans la mouise.
Je suis pas dans la merde.
Mais aussi tomber deux fois amoureuse et avoir deux fois le cœur brisé. Bah, je croyais qu'on disait jamais 203, faudrait savoir à la fin. Et puis subir un lapin et 4 dates atroces, ça va, c'est déjà fait.
Ah ouais.
Et enfin embrasser 15 mecs avant
mais
de trouver l'âme sœur. Non mais 15
pardon.
Mecs dans toute une vie.
Ok.
Ça fait pas beaucoup quand même.
Non,
il y a un petit souci
oui.
dans les stades.
Ouais,
parce que moi j'ai embrassé beaucoup plus de crapauds. Évidemment, il n'y en a aucun qui s'est transformé en prince charmant.
Pas de bol.
Et on termine par notre instant plaisir d'offrir à faire à son amoureux ou amoureuse avec le kit fellation.
Ah, c'est quoi ça ?
Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce blowjob kit ? Un lubrifiant manque passion. Alors, pourquoi les fruits exotiques plutôt que ceux des bois ? On sait pas. Accompagné d'un bavoir imprimé faux sein siliconé surmonté d'un collier de perles. Perso, j'aurais préféré un pendentif dauphin, mais bon, on s'en tape. Un charmant bavoir donc à nouer autour du cou. Servi avec un spit bag. Le spit bag,
j'ai pas, c'est un crachat peut-être. Je
voilà,
pas, un, truc.
Un petit sachet pour recracher.
Bon appétit, il est 20h.
Tout pour 10 dollars. Sinon, comment ça se passe au niveau du foutage de gueule ?
Mathilde, je vous aime.
Point G, comme Julia, parce que ça s'écrit avec un G.
Et ben voilà qui nous met donc En appétit. Catherine, bon, oui. On a énormément d'appels de femmes ce soir. On a beaucoup de messages aussi sur le répondeur que donc vous n'entendrez pas. Vous les entendrez peut-être plus tard dans la semaine, mais en tout cas pas ce soir. Et les hommes dans tout ça.
Oui.
Est-ce qu'ils vivent plus facilement.
Il
n'y
a pas le kit pour les femmes.
Est-ce qu'ils vivent plus facilement.
Essaye de suivre.
Le fait de ne pas avoir d'enfants. Est-ce qu'on leur fout un peu plus la paix là-dessus aux hommes?
Ah, c'est pas pareil. L'image de la femme, le ventre rond, c'est une belle image. Mmh. Oui, je pense qu'on leur laisse un peu plus la paix, c'est vrai. C'est pas la même chose.
Mais parce qu'on dit qu'ils ont plus de temps et donc ils finiront bien
par... Bien sûr, il y a des hommes qui peuvent être pères extrêmement tard. Mais par contre, il y a beaucoup de femmes qui souffrent énormément d'hommes qui ne veulent pas d'enfants. Mmh. Et c'est très difficile d'être en phase. Mais il y a l'inverse aussi. Je connais des hommes qui ont beaucoup de désirs d'enfants et qui sont avec des femmes qui n'en veulent pas. Donc la difficulté, c'est d'être en effet... C'est comme avoir envie de faire l'amour, d'ailleurs. Mmh. C'est d'être en phase, ouais. D'avoir le désir au même moment. C'est souvent source de douleur.
Alors, on a un message d'homme, justement, sur notre page Facebook, c'est Jérôme qui me dit « La vie est faite de la succession de questions suivantes. T'as toujours pas de copine, puis vous vous fiancez quand, puis vous vous mariez quand, ouais. Le premier c'est pour quand, etc. etc. » Il dit « Pression, vous avez dit pression, c'est deux points d'interrogation. » Il a raison, c'est-à-dire que on reproche toujours à quelqu'un de ne pas avoir de projet, c'est ça?
Oui, et même mieux, on dit, si vous avez remarqué, on dit « Vous avez des enfants ?» Des.
Ah oui, parce qu'il en faut des déjà.
Il en faut des, vous voyez. Sinon, on est pour certaines qui n'en ont qu'un, elles ont presque honte de n'en avoir qu'un.
C'est
parce
ça.
Qu'il faut avoir des, comme vous dites. Encore une fois, remplir, quoi. Je crois que c'est...
Cette peur du vide dont vous parliez.
Ouais.
Alors, justement, on a quelqu'un qui n'a pas peur du vide au téléphone, c'est Anne. Bonsoir, Anne.
Oui, bonsoir.
Alors, vous avez 35 ans, vous nous appelez de Lille. Et en fait, le sujet est parti de vous. Petite coquine, c'était il y a 3-4 semaines dans Point G, on parlait de maternité. Vous nous avez dit, eh oh, moi je veux pas d'enfants. Et est-ce qu'on pourrait faire une émission sur les gens qui ne veulent pas d'enfants?
Eh oui, très bien, c'est génial.
Dites-nous pourquoi.
Alors, en fait, moi, c'est un... Alors, je vais être un petit peu hors sujet, mine de rien, parce que, si vous voulez, moi, c'est pas que je ne veux pas d'enfants. Mmh. Alors, pourquoi le sujet ou pourquoi, moi, pas d'enfants?
Comment vous vous situez dans ce débat-là?
Alors, en fait, moi, je me situe, on va dire, au milieu, dans le sens où c'est pas que je ne veux pas d'enfants, c'est que je ne ressens pas, en fait, le besoin ni l'envie, le besoin physiologique ni l'envie, en fait, de porter un enfant. Mmh. C'est-à-dire que je trouve qu'une femme enceinte, c'est très beau. J'ai des amis qui sont enceintes qui me disent que c'est magnifique, qu'elles vivent un moment merveilleux et que c'est génial. Mmh. Et ça fait des années que j'y réfléchis et je me dis, bah oui, si, effectivement, ça doit être génial. Mais moi, je ne ressens pas ce besoin de porter un enfant, en fait.
Mais vous êtes en couple ou pas?
Là, non.
Parce que c'est quand même un désir à deux.
Oui. Mais là, j'ai envie de dire, même si j'étais en couple... Ouais. Je crois que j'aurais toujours cet avis-là, c'est-à-dire que parce que j'ai déjà été en couple en fait, donc
On change. Enfin, on peut ne pas avoir envie avec l'un et puis tout à coup avoir envie avec l'autre. Loin de moi l'idée de vous forcer à être enceinte ou quoi que ce soit, mais je dis juste, on parlait de ne pas se fermer de porte de façon absolue et définitive dans un sens ou dans l'autre.
Oui,
c'est ça, non?
Oui, mais on peut aussi avoir difficulté à avoir désir d'enfant d'un homme parce qu'on en est encore bloqué quelque part inconsciemment, et c'est pas conscient du tout, à avoir envie d'un enfant avec son papa ou avec sa maman. C'est-à-dire qu'on est pris dans quelque chose de l'enfance d'autrefois, avec une résurgence des sentiments ambivalents qui s'adressent à nos deux parents. Ça s'appelle Œdipe. Hein.
C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie de grandir, tout à coup,
on n'a pas envie de franchir ce pas-là. Pour rencontrer l'autre dans sa différence, l'autre, c'est-à-dire le partenaire, et pouvoir se dire je vais pouvoir avoir en moi un petit être qui ne va pas tout détruire, tout casser. Parce que porter un enfant en soi, ça implique une expérience intense. Et si vos amis vous disent oh, c'est merveilleux la grossesse, etc., ça c'est le discours social.
Elle mente.
Mais oui, parce que quand on accompagne en analyse des futures mamans, comme c'est mon cas, on s'aperçoit justement qu'il y a un gros tumulte, des grosses résurgences d'angoisse qui étaient enfouies.
Mais là on vous dira, si elles sont en analyse, c'est qu'elles vont pas bien. Donc s'il y a ce tumulte, c'est parce que
ce que vous dites est juste. Ceux qui ne savent pas ce que c'est disent exactement ce que vous dites. Mais des sages-femmes qui, elles, accompagnent le tout venant, si j'ose dire, des mamans qui ne sont pas forcément en analyse, vous diront aussi qu'elles sont à même d'écouter des grosses peurs qui remontent à la surface, vraiment des peurs d'éclater. Il y a des rêves récurrents. Il y a beaucoup de femmes enceintes qui rêvent que le petit bébé transperce leur ventre et qu'il y a une main qui sort. Il y a des rêves de, surtout au premier trimestre, il y a des nausées, des vomissements, des peurs des rêves de bêtes sauvages qui viennent vous dévorer. On voit combien c'est archaïque et c'est vraiment à même la peau très très fort. Il y a des allergies, il y a vraiment des symptômes très forts. Et au second trimestre, c'est un voyage en pleine mer, en plein ciel, et tout s'ouvre, si vous voulez. Et au troisième trimestre, il y a de nouveau des peur, parce qu'il y a un moment de se séparer de cette grossesse, et ça renvoie à toutes les séparations successives qu'on a vécues depuis l'aube de la vie. C'est vraiment un voyage intérieur très fort, qui peut être violent, et qui fait qu'on peut avoir très peur, mais une terreur de porter un bébé, c'est tabou de le dire, et pourtant c'est fort humain et fort féminin, et il faut le travailler avec quelqu'un qui peut vous écouter, qui vous porte, et qui vous permet de le dépasser, voyez-vous.
Oui, alors tout en sachant que moi j'ai pas la sensation d'avoir peur, d'avoir cette peur. Je veux dire, c'est pas qu'on soit pas, enfin en tout cas quand derrière le mot grossesse, etc. Je l'assimile pas à de la peur en fait. C'est vraiment j'ai l'impression que c'est pas un besoin que j'ai de porter un enfant. Et c'est ça qui est un peu paradoxal. Et j'ai beau me dire, essayer de revoir le passé, de voir s'il n'y a pas un petit traumatisme quelque part. Non, j'ai pas cette sensation-là, parce que voilà, moi, tout s'est bien passé avec mes parents, etc. Donc c'est pour ça que je vous avoue que je suis un petit peu, comme je disais, entre les deux. C'est-à-dire que c'est pas que je ne veux pas d'enfant, c'est que je ressens pas le besoin d'en porter, en fait.
Oui, mais c'est pas à la Samaritaine qu'on le trouve. Donc si vraiment vous en voulez un et que vous n'éprouvez pas le besoin de porter, il va falloir explorer ça.
Et en même temps, comme vous dites, je suis entre les deux, vous n'avez que 35 ans et il y a encore beaucoup, beaucoup d'années devant. D'ailleurs, Anne, je vous conseille d'écouter ce point G jusqu'à la fin, parce que il y a un témoignage qui pourrait vous parler, qui pourrait vous intéresser. Donc je compte sur vous. Ou alors podcast, lemouv.fr.
Voilà. Promis.
Merci beaucoup Anne, à très bientôt.
Au revoir.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir. Et on rejoint tout de suite Gladys. Bonsoir Gladys. Gladys ?
Elle est en train de faire un bébé.
Elle n'est pas là. Ah ben Gladys fait un enfant. Bon, et ben vous savez quoi ? Pardon. Gladys. Oui, Gladys voilà. Nous a raccroché au nez.
Ben voilà.
Elle est là. Gladys, vous êtes là, c'est merveilleux.
Bonsoir.
Et la lumière fut. Voilà, magnifique. Donc vous avez 24 ans, vous habitez Caen, et vous avez choisi, dites-vous, à 19 ans, de ne pas avoir d'enfant. Qu'est-ce qui s'est donc passé ? Racontez-nous.
Je sais pas très bien ce qui s'est passé à ce moment-là, mais je pense que c'est une succession de vies passées finalement qui m'ont amené à penser que c'est très très bien une vie sans enfant et que j'aurais quand même grandi et pour nous, je serais quand même une bonne personne, quoi.
Ah ça oui, je pense que de toute façon le message est passé depuis le début de ce point G qu'on peut être tout à fait épanoui sans enfant. Mais 19 ans, c'est très jeune de se poser même la question de savoir si on se sent prête à avoir un enfant ou pas, enfin je veux dire de se projeter, de se poser même cette question-là. Alors pourquoi à 19 ans vous posiez cette question-là ?
Je pense que c'est dû surtout au fait que, en fait, comme je crois que c'est Magali qui me disait que sa maman, elle l'a portée pendant longtemps par la maladie. Alors moi, c'est complètement autre chose. Je me suis un peu sentie la mère de ma mère parce que j'ai suivi mes parents dans leur divorce à l'âge de 6 ans.
Donc vos parents, je répète parce qu'on vous entend très mal en fait, vos parents divorçaient quand vous aviez 6 ans et vous avez suivi votre maman.
Alors en fait le souci c'est que ma maman a eu une aventure à ce moment-là et c'est moi qui l'ai dit à mon père. Donc quand on est enfant c'est assez délicat et il s'est trouvé que je me suis fait embrigader dans leur divorce et que de mon point de vue je n'ai eu ni enfance ni adolescence et que je me suis plutôt sentie gardienne de leur dispute, de leur vie de couple qui n'était plus et que et ça s'est poursuivi jusqu'à l'âge de 19 ans quoi. C'est encore des guerres et que toujours fait partie de ça jusqu'à très récemment.
Mais c'est ce que disait Catherine tout à l'heure, c'est quand on a une enfance qui est pleine de nœuds comme ça, après il faut du temps pour pouvoir se projeter dans l'idée de faire à son tour
ça.
Un enfant.
Mais je ne me sens même pas dans l'idée de me projeter en tant que mère parce que je ne ressens ni le besoin je veux dire, de porter un enfant, je ne m'imagine même pas. J'ai des amis de mon âge qui ont déjà un enfant, voire qui projettent d'en avoir plusieurs. Et je suis une petite professionnelle de la petite enfance, et c'est pas du tout quelque chose qui me fait envie ou dont je ressens le besoin. Quoi. J'adore les enfants, j'ai un très bon feeling, je suis épanouie à leur contact, mais... n'en ai pas besoin pour moi-même.
Mais de toute façon, c'est ce qu'on disait aussi avec Catherine tout à l'heure, c'est que l'essentiel, c'est de trouver à un instant T un équilibre et puis de continuer à avancer, continuer aussi à vous interroger. Je suis désolée, Gladys, je suis obligée de vous couper, mais en fait, on a beaucoup, beaucoup d'appels ce soir. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenue. Et puis,
bonsoir.
À très, très bientôt. Au revoir.
À très bientôt, merci.
Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça.
Mon époque,
le Move,
ma radio. Le 12-30 sur le Move, Thomas Rosec.
Retrouvez-nous chaque jour de 12h30 à 13h pour votre dose d'actu connecté. Le 12-30, c'est votre magazine, celui de la société dans laquelle vous évoluez, où la vie en ligne et la vie en vrai ne font qu'une. La rédac du Move et notre petite bande de chroniqueurs vont disséquer tout ça pour vous. On va prendre un malin plaisir à tirer tous les fils du grand réseau global pour vous et puis avec vous aussi, bien sûr. On vous attend.
Le 12-30, du lundi au vendredi, dès 12h30 sur le Move.
Le Move.
À Paris, 92.1.
À Valence, sur 100.7.
Et au Mans,
le Move.fr.
Dans Point G, un Point G qui fait des enfants ce soir, ou pas, avec la psychanalyste Catherine Bergeret-Amselec et avec Catherine en ligne. Bonsoir Catherine.
Bonsoir le Point G.
Mais je suis ravie de vous entendre.
Merci.
Voilà, parce qu'on a eu plusieurs échanges de mails et là, cette fois-ci, ça y est, vous êtes en direct avec nous, donc je suis ravie. Vous avez 36 ans, vous nous appelez de Paris. Alors vous, pendant longtemps, vous n'avez pas ressenti le besoin d'avoir des enfants. Et
oui.
Là, oui, ça y est. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que, on va dire que j'étais dans un couple où il n'y avait pas vraiment de désir d'enfant comme ça. Oui. Et puis, j'ai rencontré récemment une personne qui a provoqué des choses passionnées, violentes, et tout est ressorti, en fait. Je pense que des fois, il faut passer par cette phase de purification du feu pour en arriver là. Et puis ce désir est sorti, à ma grande surprise, parce que j'étais persuadée que je n'avais pas de désir d'enfant. Les personnes qui l'ont pas, qui se posent la question de savoir comment c'est, je dirais juste, c'est comme une confiance en soi, on le ressent dans son corps, dans ses tripes, et une grande sérénité sur le fait que c'était la seule certitude de notre vie. Mais, c'est vraiment ça.
Mais, voilà. mais votre ex-compagne avec qui donc vous étiez dans cette première histoire d'amour, vous êtes restée plusieurs années avec elle, 11 ans, ouais. Hein, c'est ça, c'est une longue histoire.
Ans, oui.
Elle non plus ne voulait pas d'enfant.
Oui, elle n'a jamais voulu d'enfant et à ce jour, c'est toujours comme ça.
Oui.
Puisque je lui ai annoncé mon projet et j'ai vu sa réaction et de son côté, c'est non. Ouais. Non, elle n'en veut pas.
Donc. Actuellement, vous êtes en couple ?
Non, justement. Je ne suis pas en couple. Je vais faire un bébé toute seule. Voilà. Ouais.
Est-ce que, je me trompe peut-être, mais est-ce que les manifestations de l'année dernière autour du mariage pour tous, autour du droit à se marier, à avoir un enfant, est-ce que ça aussi, ça a pu vous permettre de vous sentir autorisée à... Une question que je me pose, hein. Est-ce que vous vous êtes sentie...
Non, en l'occurrence, non, parce que en plus, je travaille dans le domaine du droit et je me sentais plus concernée d'un point de vue juridique. Et non, c'est vraiment une affaire personnelle. C'est de moi à moi. Et voilà, ça a émergé. C'est un truc physique, en fait. Et peut-être un peu spirituel dans le fait que je me suis posé des questions vraiment sur le sens de ma vie, la trajectoire que je souhaitais lui donner.
Mais cet enfant Catherine, qu'est-ce que vous voudriez qu'il comble ?
Alors je voudrais le fait est que je ne souhaite pas vraiment qu'il comble quelque chose. Je souhaite juste lui transmettre de l'amour déjà, des valeurs, lui parler de notre histoire familiale qui n'est pas une histoire banale parce que nous sommes une famille de boat people. Et les boat people vietnamiens, de la diaspora vietnamienne. Et oui, en fait, s'il devait combler quelque chose, c'est que, enfin, faut être honnête, il y a un vide immense qui est celui de savoir que je vais mourir et que de ne rien laisser des valeurs de ma famille qui sont des valeurs nobles et assez fortes.
Donc. Mais vous savez, même si vous faites un enfant sans père finalement, enfin du moins il y aura forcément un père biologique forcément, oui. Il y aura certainement tout un parcours du combattant pour arriver à être enceinte, on ne fait jamais un bébé toute seule. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir... avoir un espace intérieur de triangulation pour essayer de trouver comment vous pourrez lui offrir un père symbolique. Alors peut-être vous serez avec une autre femme à un moment qui voudra aussi partager ça et elle exercera une fonction paternelle. Mais vous ne pourrez pas certainement envisager cette aventure humaine sans être accompagnée. Moi, j'accompagne beaucoup de parents homoparents et c'est très intéressant parce qu'on voit qu'on est dans un tout nouveau modèle de parentalité. Mais ça demande beaucoup plus de travail que pour les hétéroparents, parce qu'il faut inventer, d'abord il y a le regard de la société bien sûr, il y a ce qui est évident qu'il faudra dépasser, et puis il y a aussi un parcours intérieur. Alors autant pour la parentalité hétérosexuelle, c'est un sacré parcours pour devenir parent, mais pour un parcours homosexuel, c'est un sacré parcours aussi. Donc c'est une aventure, et j'ai participé à une émission il n'y a pas longtemps, Faire un bébé toute seule, c'était les maternelles sur la 5. Et justement, on ne fait jamais un bébé toute seule, vous voyez, on le fait toujours. Il y a le père qui donnera son sperme, mais il y aura aussi peut-être quelqu'un, un oncle, un je ne sais pas qui, une amie, quelqu'un qui exercera une fonction paternelle. Et ça, c'est indispensable. Vous ne pourrez pas vous en sortir sinon toute seule comme maman avec votre bébé, s'il n'y a pas quelqu'un pour faire du tiers, voyez-vous, pour introduire quelque chose d'autre.
Non, je suis totalement d'accord avec vous dans la mesure où il faut pas que je sois le seul référent de cet enfant.
C'est ça.
Mais il s'avère que mon plan A, c'est carapaté. Donc c'était le père idéal, enfin vraiment des valeurs, une structure, une base extrêmement solide. Mais bon, c'est pas grave, c'est carapaté. Je vais réinventer cette triangulaire avec mon frère, mes parents, et peut-être je ne sais pas quelqu'un que je rencontrerai et qui sera choisi sur cette base de
et même votre disposition sexuelle peut changer. Vous savez qu'on peut avoir eu des aventures avec une personne du même sexe et tout à coup une attirance pour le sexe opposé. La vie est pleine de remue-ménage et de surprises.
Ça, ce serait la meilleure.
Eh ben, j'en ai beaucoup dans mes patients.
Là, vous nous appelez dans ces cas-là.
Vous vous rendez compte que mes parents, ils savent que je suis homosexuelle depuis que j'ai 20 ans et là, tout d'un coup, à 30 ans, je leur dis oh, chers parents.
Et vous savez que c'est très très courant, ça arrive très très souvent.
Un deuxième outing, nom de Dieu, vous croyez que vous étiez peinard ? Eh ben non. En tout cas, Catherine, c'est ce qu'on dit depuis le début de cette émission. Vous n'avez que 36 ans, vous avez le temps. Toutes les portes sont ouvertes. En tout cas, vous avez déjà fait un beau chemin, un beau voyage au propre comme au figuré. Donc, merci beaucoup d'être intervenu. Continuez à être et une pongiste et une pongiste. Oui, car Catherine est championne de ping-pong de.
Bravo.
Nous n'avons pas n'importe qui.
J'adore.
Changer de table.
C'est formidable.
Merci
et peut-être
infiniment.
Futur hétéro que...
Non, oui, on ne sait pas.
On sait pas.
Vous nous tenez au courant, vous nous appelez hein, quand même.
Oui. Bah oui, je... deuxième révélation de ma vie.
On fera un point G en disant ciel, je suis hétéro. Voilà, on en fera un entier. Merci beaucoup.
Je vais l'assumer, oui, d'accord.
J'assume, je suis hétéro et j'assume. Moi, je vous embrasse, Catherine.
Bonne soirée.
On est obligé d'arrêter. À très bientôt. Toutes mes excuses à Camille qui nous appelait de Barcelone et qu'on n'a pas eu le temps de prendre en direct. Mais laissez-nous un message sur le répondeur de point G, surtout Camille. N'hésitez pas. Merci à tous pour vos témoignages ce soir. Merci à Catherine Bergeret. Selec, Le mystère des mers, c'est aux éditions des Clés de Brouwer. Merci à toute l'équipe de Point G. On vous laisse avec Émilie sur le Move.